Et ceux qui ont dit non, pas au monde à venir, pourquoi? La réponse est parce qu'ils l'ont déjà eu. Alors il n'y a même plus à dire qu'ils auront pas au monde à venir. Vous voyez, c'est clair? Non? Bon. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on enchaîne. Alors, mais je crois que votre question, madame, était vraiment importante et à sa place. C'est pas sélection, okay, ce qui impliquerait que ceux qui n'ont pas passé le tamis sont jetés au néant, c'est pas ça. C'est mise à l'épreuve. Les tsaref, ça veut dire épurer exactement comme on trempe un métal, dans le, qu'on fait passer un métal dans le creuset, et qu'après on le trempe pour qu'il devienne halal. Okay. Et alors tu vas me comprendre avec une autre notion, la notion de Kiddush Hashem. On te dit de quelqu'un, il est mort pour le Kiddush Hashem. Tu as appris cela? Il y a des manières d'achever la vie terrestre qui économisent toutes les autres nigurim nécessaires. Alors on dit, il est mort pour le Kiddush Hashem. Bon, on reparlera de ça quand on aura le cours. Vous avez compris ces choses-là? Un peu. Alors, nous sommes arrivés à la dernière ligne de la première colonne. On nous a expliqué donc ces trois choses. Derech, c'est pour épurer le corps, les tendances corporelles. Midbar, les tendances spirituelles. Yamsouf, la mise à l'épreuve de la foi au niveau intellectuel. Okay? Alors, vous prenez à la dernière ligne, après le point. Kolze Asa Kadokorku, et tout cela, Dieu l'a fait, nous sommes toujours dans l'explication du Maharal sur le système de Rabbi Eliezer. Okay? Tout cela Dieu l'a fait, la rien pour eux, qui est à Yetzia, parce que au moment, au temps de la sortie de l'Égypte, Haya Shrina Takadosh Baruch Hu, la Shrina de Dieu, la présence de Dieu au monde, Haïta Im Israël, avec Israël. Et c'est là qu'on s'est arrêté hier, le problème de l'exil de la Shrina et de la délivrance de la Shrina au moment où Israël est délivré de l'exil. On en a parlé assez longuement. Nous pouvons donc avancer. Veratzal et Asir, Pechitutam. Et puisqu'Israël était véhicule de la Shrina, alors Dieu a voulu évacuer d'Israël, Pechitutam, leurs infériorités. Pechitut, Pechachot, leur faiblesse, leur défaut. Lechach, Ayam et Yasser est Israël. Et c'est pourquoi il faisait passer Israël par des épreuves. Mais Yasser, c'est le verbe du mot Issourim, les épreuves. Ou basé à Yamemarek et Israël. Et par là, il épurait Israël. Vous voyez, donc, pour la partie du peuple qui n'était pas encore prête à devenir l'Israël de Jérusalem, de Tzion, il fallait passer par là pour être éprouvé, épuré. Ça, c'est a priori. Okay? Mais dans les autres, qui n'avaient pas besoin de cela a priori, il y a des raisons a posteriori que donnera Rabbi Yoshua. Vous voyez, vous avez compris les deux systèmes. C'est clair? Mais ici, le Maharal ajoute quelque chose de très important. Après ces épreuves ayant passé par là, alors ils étaient plus, c'est moi qui ajoute plus, un peu mieux faire comprendre, théorim, pur, épuré, tahor, zakaim, rendu zach, rendu plus transparent, transfiguré, reouim le kabel ma'alat ayona, apte à recevoir un niveau supérieur d'être. Vous suivez? Et voilà ce qu'ajoute le Maharal. Va filou lo ayabaim perhitou, et même s'il n'y avait pas eu d'infériorité en eux, Ayamé Aserotam, Begouf ou Banefesh, Dieu les aurait quand même éprouvés au niveau du corps et de la vie psychique, Bishvil, Kede, Lezakot, et Tamahala, Gedola, afin de mériter un niveau encore supérieur d'être, Alide Isurim, Sheiklou, Ata, à travers les épreuves qu'ils auraient acquises dans cette occurrence, Ata, dans ce maintenant-là, au moment de la sortie d'Égypte, chez Narasulaem qui a été fait pour eux. J'ai compris ce que le Maharal ajoute. Je vais poser une petite question d'exégèse, mais d'abord l'idée générale. Il dit, dans tous les cas, pour la partie du peuple pour qui c'était nécessaire, il fallait passer par ces épreuves d'épuration. Et ajoute le Maharal, et même si ça n'avait pas été nécessaire, même si vraiment il n'avait pas de défaut, eh bien, a priori, on serait passé par là pour acquérir une Mahala encore supérieure. Et la question que je pose, c'est sur 1, 2, 3, 4, la cinquième ligne de la colonne. Je prends déjà à la fin de la ligne 4, va filou lo ayabaem perhitut, ayame yaserotam, bagouf ou banefesh. Et même s'il n'y avait pas en eux de faiblesse, Dieu les aurait quand même mis à l'épreuve par le corps et par la vie psychique pour leur donner une mahala supérieure, un niveau supérieur d'être. Okay? Ça aurait été Isurim chez la Hava et pas Isurim chez la Hanesh. Non, quelle est ma question? Il n'y a que Gouf et Nefesh et Sechel, il a oublié.
Ah.
Non, c'est Gouf, Nefesh, comme il a dit déjà, mais il manque la troisième mahala, Sechel. Pourquoi? Pourquoi il fait pas allusion ici à la troisième série d'épreuves au niveau de l'intelligence? Pardon? Vous n'avez pas compris ma question. Je la mets en forme de façon plus précise. Le Maharal nous a expliqué qu'il fallait trois niveaux d'épreuves. Okay? Et ça correspond aux trois mots que le Midrash étudie. Trois niveaux d'épreuves, une au niveau du corps, l'autre au niveau de la vie psychique, qui est la vie spirituelle. Okay? Et troisièmement, au niveau de la vie intellectuelle. Et il nous dit, pour ceux pour qui c'était nécessaire, et bien voilà pourquoi il y a eu ces trois niveaux d'épreuves. Derer, au niveau du corps, Hamidbar, au niveau du Nefesh, Yamsouf, au niveau du Sechel. Ensuite, il ajoute autre chose. Et il nous dit, et même s'ils n'avaient aucun défaut, Dieu les aurait éprouvés pour leur ajouter un niveau d'être supérieur. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, leur défaut aurait été d'être parfait, mais à ce niveau-là. Alors on les aurait éprouvés pour qu'ils soient parfaits à un niveau supérieur d'être encore. Et il dit, à ce moment-là, Dieu les aurait éprouvés, pas gouf ou pas nefesh, au niveau du corps et au niveau de la vie psychique, et pourquoi pas au niveau de la vie intellectuelle. Ça veut dire que s'ils avaient été parfaits, il n'aurait pas été nécessaire de les éprouver au niveau de la foi. Ça aurait été acquis de façon irréversible. Mais de les améliorer au niveau de leur corps biologique et de leur corps psychique. Ça y est, c'est clair? Donc, alors on avance. Oui, d'être perfectible. Très bien. Parce que, au niveau, c'est la différence entre mitzvot et Torah. Torah, connaissance de la Torah, c'est irréversible. Mitzvot, c'est à refaire constamment jusqu'à ce qu'on arrive en haut de l'échelle. Vous voyez, le mérite d'une mitzvah peut se perdre. Le mérite d'une connaissance de la Torah ne se perd jamais. Vous avez compris la différence? Donc, alors maintenant je pense que on arrive donc au système à l'explication du système de Rabbi Yoshua. Il nous manque encore une phrase. Ulfichach aya meyagean metzarefan menasan. Et voilà la raison pour laquelle Dieu avait décidé yagean de les fatiguer par le chemin, metzarefan de les épurer par les angoisses, ou menasan et de les mettre à l'épreuve au niveau de la foi. Rabbi Yoshua akol leshevach, alors que pour Rabbi Yoshua tout est louange. Qui bat la fête laem à Torah, parce que il est venu leur donner la Torah. Vena Torah reouya, et on ne peut leur donner la Torah. Je vous traduis littéralement. Vena Torah reouya libo mutan lahem, c'est de l'hébreu du Moyen Âge. Et la Torah n'était susceptible d'être donnée à eux, et là va derrière. Et Bederer et Respelishti, que sur le chemin du pays des Philistins. Chez vous, à Derer, à Karov et Mitzraïe, qui est le chemin le plus proche de l'Égypte, l'Eretz Israël, entre l'Égypte et l'Eretz Israël. Qui a Torah, Tikra Derer. Parce que nous trouvons dans les textes que la Torah est appelée chemin, dirent-ils, ainsi que dit le verset, Mikol à Derer à Shertziva, tu ne t'écarteras en rien du chemin, de tout le chemin que Dieu t'aura ordonné. La voie avait au lieu. Derrière. J'aimerais bien ouvrir des parenthèses sur chaque mot, mais je préfère d'abord avancer. S'il y a des questions, on les verra. Kivan Torah Nikra Derer. Parce que la Torah a été nommée Derer. Et vous voyez l'explication selon Rabbi Yoshua. Dans tous les cas, Dieu voulait leur donner la Torah en chemin, mais pas dans le détour par le Sinaï, dans le chemin direct qui passait par le chemin de la côte. Mais on apprend ici quelque chose de nouveau. C'est que celui qui n'a pas connu ce qu'est le voyage ne peut pas non plus comprendre ce qu'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah s'appelle chemin. Parce que la Torah s'appelle derer. Les chach reuim shetinaten ba derer. Et c'est pourquoi il était apte, convenable, à ce que la Torah leur soit donnée sur le chemin. Et s'ils allaient trop directement, il n'aurait pas été possible de leur donner la Torah dans le chemin de la côte, ce chemin trop proche qui s'appelle celui de la terre des Philistins, Be'eretz Goyim Acherim, dans une terre occupée par d'autres peuples qu'Israël, qui im Be'eretz Israël. La Torah n'aurait pu leur être donnée en chemin qu'en Eretz Israël. Vous suivez bien, hein, l'analyse du Mahavan. Et les Eloyab Aderer. Mais alors là, ce n'aurait pas été dans le chemin. Les Tzarich la Torah Aderer, Kemoshe Yidvar. Or, il est nécessaire à la Torah de passer par un chemin, comme il va encore être expliqué. Voilà ce qu'il veut dire. Dans tous les cas, nous allons apprendre que la Torah est reliée à l'idée de chemin. Par conséquent, la Torah devait être donnée en chemin. Or, pour ceux qui avaient besoin que la Torah leur soit donnée en chemin, ça ne pouvait pas être dans le chemin de Eretz Pelishtim, parce que, ils vont encore y revenir par la suite, il y avait une impossibilité à cause de l'impureté qu'il y avait dans le chemin de Eretz Pelishtim à cause de Pelishtim. Et donc, il aurait fallu qu'ils passent rapidement le chemin de Eretz Pelishtim et qu'ils reçoivent la Torah à Jérusalem. Mais à Jérusalem, ce n'était pas en chemin. Or, ils avaient besoin de recevoir la Torah en chemin. Et par conséquent, puisqu'ils avaient besoin de recevoir la Torah en chemin, et qu'il ne fallait pas les faire passer par le chemin de la côte, parce qu'il y avait les Pélishtim, alors on les amenait dans le chemin du désert. Vous avez suivi le raisonnement. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? C'est ce lien entre la Torah et le chemin. Bon.
S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de petit calcul, toujours dans la situation de la place du désert, à savoir une certitude, au moins momentanée, d'éliminer les
contestataires
et de faciliter la
suite? Absolument certain. Nous avons d'autres commentaires que le Maharal qui dit, puisque le peuple est sorti dans l'état où il est sorti, avec les 3/5 vraiment en apprentissage total, okay, alors il va y avoir une péripétie supplémentaire de mise à l'épreuve, non pas de sélection mais de d'épuration, de telle sorte que seul un peuple épuré entre en Eretz Israël. Okay. Et ce dont on va s'apercevoir, c'est que toute la génération de la sortie d'Égypte reste à l'endroit. Seuls leurs enfants vont entrer en Eretz Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors faites bien attention dans la comparaison qu'on a vue tout à l'heure. Quand je vous ai dit que, selon les kabbalistes, nous sommes, et je ne vous parlerai pas des exceptions bien sûr, mais grosso modo, rubo que culo, notre temps et la réincarnation de cette génération-là, elle est pas forcément dans l'état où elle était à ce moment-là. Okay? Entre-temps, il s'est passé 3600 ans. Okay? Ça ne veut pas dire que nous avons échoué comme eux. Ça veut dire que c'est eux qui vont réussir. Est-ce que vous comprenez la Mais nous avons les mêmes problèmes. Okay? Nous avons les mêmes problèmes. Et je pense que pour chacun d'entre vous, chacun à sa manière, par le biais du problème auquel lui est sensible, il suffit d'une expérience d'identification, comment ça se passe dans l'histoire, d'après le récit, pour que ça s'y aille, on ait compris que c'est le même récit. Ça vaut la peine de se casser la tête pour recevoir tous les détails. Il faut s'y mettre à 600 000 pour comprendre tous les détails. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en mathématiques un raisonnement qui s'appelle le raisonnement par récurrence. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait la preuve d'un théorème sur un point, ça vaut pour toute la série. Si vous avez compris un verset, c'est que toute la Torah est vraie. Vous comprenez ce que je dis, okay? C'est clair. Okay? Alors, chacun a son verset. Ah, pas du tout, on n'a même pas commencé. On a à peine traduit le Maharal. Okay? Je vais y aller doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a entre la Torah et le derrière? Et pour cela, je vous citerai, comme d'habitude, des introductions préalables pour un peu fatiguer la difficulté, je vais vous dire. Je tenais d'abord à vous dire cela. Et je pense que Bon, ça va. Il n'y a pas de questions sur ce qu'on vient de voir?
Donc, dans cette situation-là, si on avait traduit Torah par voix,
mais
dans la Golade,
ça aurait changé. Énormément. Il y a une espèce d'attitude juridiste, comment on dit ça, de juridisme, un peu de légalisme, qui a envahi la tradition juive dans toute l'histoire de la Golade de 2000 ans. Mais, regardez, l'étymologie va jusque-là. Le mot de halakha, qui traduit l'aspect légal de la Torah comme loi, le mot de halakha lui-même signifie la marche. Vous n'avez qu'à le comparer avec le mot de halicha, la halokh. Ça veut dire la marche à suivre. Mais il y a un aspect sadducéen qui a envahi les communautés juives avec le temps. Et malheureusement, si vous voulez, l'immense majorité des communautés orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui sont de la fidélité la plus authentique à la Torah, sont tombés dans ce piège. En Europe, en tout cas, c'est évident, bon, et ensuite ça a diffusé dans le monde entier, avec l'impérialisme européen, c'est arrivé partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une espèce de vengeance subreptice de Rome dans Jérusalem. Puisque le légalisme, ça vient de Rome. Ça, c'est la grande calomnie des chrétiens qui l'ont fait venir des pharisiens, alors que ça vient des Romains, le légalisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour arriver, je crois, à la première introduction, c'est de relire notre verset dans Béchalar. J'espère que tout le monde a un texte. Et même si on arrive à relire que le verset aujourd'hui, ça vaut la peine. Et notre problème, donc, pour la suite, c'est de comprendre le lien entre l'idée de Torah et l'idée de Derech. Est-ce que quelqu'un pouvait descendre à la bibliothèque et me demander une Gemara de Kiddushim? Tu veux, Yifa? Bon, une Gemara de Kiddushim. Bon. Bien sûr, le gouf est le keli de la Neshama. Israël est le keli de la Shrina. C'est dans ce sens-là. Vous savez, je demande keli à une analyse dans le Zohar que le Shla reprend. Et vous savez qu'Israël a trois niveaux d'identité. Il s'appelle Kohen, Lévi, Israël. Et le nom de Kéli qui apparaît là. Kéli. C'est joli en fait. Qui désigne en particulier le nom de El, on le dit Kel. Alors il y a un verset, on met un couf à la place. C'est pas ma communauté, mais enfin j'ai entendu souvent. Alors, il y a un verset qui dit Zé Eli Vanveu. Alors, il dit Zé Keli Vanveu. Mais il y a une kavana de la Kabbalah derrière. Vous voyez Zé Keli Vanveu. Parce que dans un autre sens, les choses s'inversent. Bon, ceux qui comprennent, comprennent. Et alors, ça m'a mené une fois à faire une blague de Pourim. Et pour les juifs de la communauté orthodoxe de la rue Cadet, il y en a dans la salle. Ça va vous faire sourire. Il n'y en a pas? Alors la branche cadette s'est évanouie. Ils ont eu un grand rave, un très grand rave, c'est Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Ils avaient tellement de respect pour lui qu'ils disaient Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Et alors, ça va jusque là. Mais j'ai entendu.
Vous mettez en langage.
Oui. Alors je crois que là, il ne faut pas exagérer. Parce qu'un surcroît de piété, c'est suspect. D'ailleurs, un surcroît en tout.
Il y a beaucoup de soucis à l'Europe. Il y a beaucoup de soucis à l'Europe. Pendant trois semaines, j'ai une amie à bord au pas.
Oui, non, je sais, la piété américaine, ça, à voir les nains, il faut le faire.
Et en passant de la café de Londres.
Et même de Paris. Vous savez, d'après les analyses, je me rappelle déjà l'enseignement de M. Gordin à ce sujet, la civilisation américaine est celle qui ressemble le plus à ce qu'était la civilisation égyptienne dont parle la Torah. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. L'Égypte, en égyptien ancien, s'appelle le pays noir. Et il y avait à la fois le plus grand puritanisme et la plus grande débauche. Et c'est exactement l'allure, le style de la civilisation américaine. Très puritain, et Dieu préserve le reste. Hein? Bien, et où est-ce qu'on était? Oui, alors nous reprenons d'abord le verset. Okay? Alors, on va faire un petit effort en hébreu. Vaïhi, Beshalach, Pharaon et Aram, le premier verset. Et il arriva, lorsque le pharaon eut envoyé le peuple, Velo Naham, et la racine c'est Naho, qui signifie diriger. guidé. Et c'est Naha Otam. Et Dieu ne les a pas conduits. Vous voyez, Velo Naha Elohim. Et Dieu ne les a pas conduits derrière, par le chemin, Eretz Pelishtim, du pays des Philistins. Qui, Karov, Hu. Et ce Hu, parce que lui est proche, va au chemin. C'est clair? Oui? Vous y êtes? Je le prends. En tout cas, pour ceux qui suivent en hébreu, Velo Naha Elohim, et Dieu ne les a pas dirigés, conduits, derrière, par le chemin, Eretz Pelishtim, du pays des Philistins. Qui, Karov, Hu. Parce que, qui, Karov, proche, vous, lui. Qui, lui, le chemin. C'est clair? Alors il en résulte que dans ce verset, pour le pshat, après nous aurons notre lecture, le mot de chemin, derrière, est au masculin, Raha, Ken, puis il y a Hu. C'est clair? Vous avez compris? Alors je reprends ce pshat, intégrez-le dans la mémoire parce qu'on va changer de niveau de lecture, ne l'oubliez pas. Velo Naha Elohim, Derech Eretz Pelishtim. Qui Karov Hu, et qui c'est Hu, le Derech, le chemin. Ça suit pour tout le monde? Bon. Et les Taramim, c'est-à-dire les accents de la Masora, font cette lecture. Regardez, sous le mot de Derech, vous avez un Taram qui s'appelle Yeti, vous voyez un petit angle comme ça, et qui est un Taram disjonctif. C'est-à-dire le mot de derer est isolé de la suite, erer spelichti. Donc nous avons une unité de lecture qui est ainsi. Derer, erer spelichti. Et là, c'est relié. Le chemin du pays des Philistins. C'est clair? Qui, caro, vous, car lui, ce chemin, était proche. Qu'est-ce que ça veut dire proche? Pour cette première lecture, trop proche de l'Égypte. S'il y a un obstacle quelconque, on est très près encore de l'Égypte, on risque de revenir. Ce qu'a dit le verset. C'est clair? Bon. Seulement, nous avons une unité de lecture en hébreu qui est le mot Derech Eretz, et non plus Eretz Pelishtim. Ce mot-là, Derech Eretz. Et qu'est-ce que ça veut dire Derech Eretz? Qu'est-ce que ça veut dire Derech Eretz? Hein? Il y a plusieurs sens. Donnez tout ce que vous savez.
Ligne de conduite.
Ligne de conduite, mais à quel niveau?
De manière de
C'est trop précis ou trop général. C'est pas, ça ne traduit pas encore le concept hébraïque. Alors je vais vous donner tous les niveaux de sens que vous vérifierez dans le dictionnaire, mais ce n'est pas tellement le dictionnaire qui nous occupe, c'est la signification de cette unité de lecture, le Derech Eretz. Le Derech Eretz, ça a pour premier sens la morale. Et dans quel sens de morale? La politesse. Quand on dit de quelqu'un qu'il a du Derech Eretz ou qu'il n'a pas du Derech Eretz, ça veut dire qu'il est poli ou qu'il n'est pas poli. C'est-à-dire la morale dans le sens de la morale nécessaire pour la vie en société sur Terre. Derech Eretz. Littéralement, ça veut dire le chemin de la Terre. La Torah vient du ciel. Torah min ha-shamayim. Mais il y a une sagesse de la civilité, de la politesse dans le sens étymologique. Polis en grec, ça veut dire la cité. La vie dans la cité, la morale de la société. C'est le derrière, premier sens. Vous voyez, ça va ensemble. Morale, dans le sens de politesse, dans le sens de convivialité, civilité, la morale propre à telle ou telle société, la manière de se conduire sur Terre. Dans un sens plus général, c'est toutes les sagesses et les connaissances et les sciences qui nous permettent d'aménager notre vie terrestre. Et donc, Derech Eretz, dans le sens le plus général, c'est la civilisation, y compris la culture. Et puis, d'autre part, nous avons un sens plus particulier, qui est le métier, le travail. Et alors, suivant les textes, c'est tel ou tel sens qui apparaît en dominant. Je reprends très brièvement. Derech Eretz, ça veut dire d'abord la politesse, la morale, la culture propre à une société. Derech Eretz, ça veut vous dire de façon beaucoup plus large, la civilisation, et troisièmement, de façon un peu plus précise, le métier. Bon, je ne veux pas vous citer de sources parce que ça nous mettrait trop loin, mais vous pouvez avoir des Mishnayot, ou des Gemarot, ou des Midrashim, ou même des versets, où c'est plutôt en dominant tel ou tel sens. Qu'est-ce que nous avons déjà comme connaissance acquise? C'est que dans la première lecture, le mot de Derech est au singulier. C'est au masculin. Et maintenant, apparaît une autre expression qui se lit maintenant beaucoup plus facilement, le « dereferes de Pelishtim ». Vous avez compris la différence de sens? Non pas par le chemin de Eretz Pelishtim, mais Dieu ne les a pas éduqués et conduits par le « dereferes de Pelishtim ». Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que le « dereferes » est un niveau de civilisation humaine, de réussite de l'effort moral préalable à la Torah. La Torah n'est donnée qu'à celui chez qui le Derech Eretz a réussi. C'est le cas d'Abraham. Tout un long effort de l'humanité à travers 20 générations, et dans la famille où le Derech Eretz a réussi, on est déjà moral, alors la Torah est donnée. Faites bien attention à cela. Là ici, il y a un sujet pour lui-même. Okay? L'objet de la Torah, c'est pas la morale sur terre. L'objet de la Torah, c'est la sainteté qui nous fait acquérir le vrai monde. Bon, là, je vous parle en religieux, mais vous comprenez ce qu'il y a derrière. Vous avez tout clair? Et la preuve, c'est la formule par laquelle on introduit chaque mitzvah. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech ha'olam, asher kideshanu b'mitzvot. Oui, les mitzvot ont pour objectif la sainteté. Et il n'est pas encore expliqué, si vous voulez, mais en tout cas, c'est autre chose que la moralité. Okay? Nous nous servons de la Torah aussi pour la moralité. Il y a, si vous voulez, une implication d'un certain Derech Eretz propre à la Torah. Okay? Mais l'objet de la Torah, c'est la Kedusha, c'est pas le Derech Eretz. La preuve, la Mishnah du Pirkei Avot qui dit « Yafé Torah im Derech Eretz ». Donc Torah, c'est une chose, Derech Eretz, c'est une autre. Okay. Il y a un Derech Eretz de la Torah, mais c'est pas cette idée-là que je voudrais analyser. C'est d'abord ceci: la Torah n'est donnée qu'à ceux chez qui le Derech Eretz a réussi. On va un peu réfléchir là-dessus. Imaginez quelqu'un qui n'a pas encore résolu le problème de la conscience morale et qui s'occupe de sainteté. Sa sainteté va pourrir tout de suite. Okay. Vous comprenez? Il faut d'abord résoudre le problème moral et après on s'occupe de religion. Bon, comme nous sommes un niveau de civilisation, c'est ce qu'on a vu un peu hier ou avant-hier, je ne sais plus, où tout est pêle-mêle, où tout est au même niveau, alors on mélange tout. Il est bien évident que la Torah peut servir d'apprentissage à la moralité, mais ce n'est pas son objet réel. Son objet réel, c'est de s'adresser à celui chez qui la moralité a réussi pour accéder au niveau de la sainteté. Est-ce que vous suivez? Et s'il y a d'autres questions, vous les poserez après. Or, chaque société, chaque culture a son Derech Eretz. Vous comprenez? Je pense que c'est clair. Et donc Israël a son Derech Eretz qui est préalable à la Torah. Son propre Derech Eretz. Il a un Derech Eretz hébreu, une sagesse de la terre propre à l'identité hébraïque, qui a fait que Dieu a choisi ce peuple-là plutôt qu'un autre pour lui donner la Torah. Et vous voyez l'importance de l'identité hébraïque de Abraham à Moïse, les 6 générations préalables à la Torah. Mais en réalité, c'est 26 générations préalables. Depuis le premier homme, se cherche un Derech Eretz authentique qui fera que c'est à ce peuple que la Torah Mina Shamaim sera donnée. Tu veux bien? Or, si on a bien compris cela, par le fait que chaque société a son propre Derech Eretz, il y a donc des différences. Et il y a ce cas particulier du Derech Eretz le plus opposé à celui d'Israël. Et c'est celui-là que le verset appelle le Derech Eretz Pelishtim. Vous avez été clair? Vous avez compris la lecture? Et je reprends un peu l'analyse à 3 niveaux. Okay? En reprenant le sens du mot Derech Eretz. Il y a le Derech Eretz hébraïque lui-même. La manière de se comporter dans l'histoire de l'hébreu. Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Amram, Moïse. Ça arrive jusque-là. Et vous voyez ce que j'avais dit tout au début, dans le premier cours. Les descendants des Hébreux avaient une différence avec leur Hébreu. Quelle différence? Le Derech Eretz Hébreu. Les uns et les autres, sauf la tribu de Lévi qui est un cas particulier, mais les uns et les autres étaient au même stade au Sinaï, recevoir la Torah, avec une grande différence. Les tribus des Hébreux avaient déjà les 6 générations du Derech Eretz Hébreu. Israël et Abraham avaient d'autres Derech Eretz. Et donc, il y a eu papotage. Vous comprenez le problème, okay. Et alors, Gain de Récheret, compatible à la Torah, même s'il n'est pas hébreu. Et, deuxième sens. Il y a un troisième sens, de Récheret absolument incompatible à la Torah. C'est celui des Philistines. Vous savez, c'est clair. Alors, on relit le verset. Velonacham Elokim Derecheret Philistim. Et Dieu ne les a pas conduits par le stade préalable à la Torah qui doit être Derecheret, mais celui des Philistins d'Akaba. Qui carob vous. Et là, ça change complètement. Car vous, c'est Dieu. Car lui est proche d'Israël. Ou l'inverse. Car Israël est proche de Dieu. Et par conséquent, rien à voir, incompatible avec le Derecheret Philistim. Alors, on revient sur la lecture. Normalement, la stratégie la plus simple, c'était de prendre le chemin de la côte et d'arriver à Jérusalem. Mais on ne pouvait pas, parce qu'il y avait des Philistins. Et que, traversant la société des Philistins, Israël se serait dénaturé. Ou en tout cas, il y aurait eu une milchama telle, une guerre telle entre les deux Derecheret, que les faiblards auraient dit on retourne en Égypte. Alors, vous avez maintenant une autre lecture du verset un peu plus claire. Oh, il y en a encore sept. Si j'ai le temps de vous la vous donner, maintenant, on va finir avec celle-là d'abord. Léa. Vous voyez, je reviens maintenant. Essayez d'entendre en hébreu. Velonacham Elokim. Et Dieu ne les a pas fait passer par l'étape du Derecheret Philistim. Pourquoi? Kikarov vous. Parce que Dieu et Israël sont des proches. Parce que Hachem est proche d'Israël. Et Israël est proche de Hachem. Et s'il y a quelque chose d'incompatible, c'est le Derecheret de Philistim. Qu'est-ce que c'est que le Philistim? On apprend, d'après les Midrashim, que c'est au moment où la sortie d'Égypte se prépare que les Philistim arrivent de leur civilisation, la Crète, et occupent le pays. C'est ceux qui vont incarner, si vous voulez, les prétentions de Amalek, annuler Israël et se mettre à sa place. Okay? Ça veut dire que c'est l'anti-Israël radical. Et vous voyez que nous vivons ces péripéties-là. Dès qu'Israël sort de la Galoute, se prépare un peuple qui s'appelle Philistim et qui prétend remplacer Israël. Je n'ai même pas besoin d'identifier, c'est clair à tout le monde. Okay? Et alors, pourquoi cette lecture est importante à ce stade-là? Parce que nous allons voir qu'il y avait une difficulté dans l'explication du Maharal. Derech peut être soit masculin, et dans le pshat c'est masculin, dans le premier pshat, vous vous rappelez, soit féminin, et c'est quand il est féminin que derech signifie Torah, pas quand il est masculin. Quand il est masculin, derech signifie la guerre. Et là, je vais rentrer maintenant dans une longue analyse avec le Tanou. Vous voyez, s'il y a des vrais exemples parmi vous, vous savez déjà cela, le mot de derech peut être employé soit au masculin, soit au féminin. C'est clair? Pas évident. Pas en littérature. Okay? Pas pour ceux qui parlent précisément l'hébreu. Ils savent très bien quand est-ce qu'on doit dire derech au masculin, mais dire derech. Et alors, en tout cas, c'est clair dans tous les versets du Tanakh que chaque fois que le mot de derech est au masculin, c'est la guerre que ça veut dire, et j'expliquerai après. Chaque fois que le mot derech est au féminin, c'est la Torah. Or, l'explication du Maharal se basait sur le fait que derech signifiait Torah, vous vous rappelez? Donc il fallait changer de lecture du verset. Parce que dans la première lecture, le « hu » renvoyait au derech. Okay? « Kikaro hu » c'était le chemin qui était proche. Et par conséquent, derech signifiait la guerre, puisqu'il était au masculin, et pas la Torah, comme disait le Maharal. Alors c'est pourquoi j'étais obligé de vous donner la lecture du Maharal du verset, pour mieux comprendre son explication. Ça va jusque-là? Et alors l'explication est tout à fait autre, la lecture est tout à fait autre. Et Dieu ne les a pas fait passer par le chemin de la côte. Qui carob hu, car lui, Dieu, Hachem, est proche de Israël, ou bien l'inverse, parce que Israël est proche de Dieu. Or, comme nous savons qu'il s'agit d'un peuple que le Pharaon a renvoyé, qui n'est pas encore vraiment fort dans son identité, alors en voyant cette guerre qui était nécessaire entre Israël et les Philistins, les faiblards auraient dit, en voyant la guerre, oui, c'est la suite du verset, eh bien, c'est trop difficile, on ne s'en sort pas, on retourne en Égypte. Ça y est, c'est clair. Bon. Et court-circuit supplémentaire, si j'ose dire, c'est que derech, c'est milchama. et que nous avons un mot qui signifie le combat en hébreu, qui est de la même racine que Karov. Qui le connaît? Krav. Qui Karov, vous? C'est-à-dire, ce derrière, c'est vraiment une guerre. Et en voyant cette guerre, alors il serait donc humain. Or, le Maharal nous a parlé d'un tout autre derrière, Torah. Okay? Alors, maintenant, on ouvre une parenthèse pour expliquer la différence entre derrière masculin et derrière féminin. S'il n'y a pas question, jusque-là. Après, on aura d'autres lectures si tu veux, mais pour le moment, on finit ça. D'accord? Donc, ça va jusque-là? Oui. Et étant donné qu'il y a un derrière-eretz préalable à la Torah, et par conséquent, pour ceux qui n'ont pas le derrière-eretz hébreu, il est dangereux de les faire passer par un derrière-eretz étranger, mais surtout celui des Philistins, alors il fallait faire un détour des airs. Vous voyez, c'est clair? Et pourquoi ce détour? Comme dit le Maharal, parce qu'il faut leur donner la Torah. Ceux qui étaient des couches supérieures n'avaient pas besoin de tout ça, directement à Jérusalem. Mais ils auraient été seuls. Or, ils ne peuvent pas être seuls, il faut qu'ils amènent avec eux les autres. Vous vous rappelez de... Vous voyez comment le cercle se referme un peu,
vous avez dit que c'était pour le mérite d'un seul qui permettait soit la
concréation. Oui, mais à condition que les autres suivent. Mais s'il arrive tout seul, on arrive. Vous savez, ce thème est très général. Si vous confrontez le rythme de l'histoire de la constitution de l'identité Israël avec l'histoire des autres peuples, il apparaît un principe extrêmement important. Regardez ce rythme-là. Abraham, Isaac, Jacob, ça va très vite. Et c'est énorme qu'Abraham ait donné Isaac et qu'Isaac ait donné Jacob dans la même famille, le grand-père, le père, le petit-fils, c'est un mystère. Okay? Ça va très vite. Il aurait suffi que du quatrième tout de suite, le Messie. Okay? Abraham, Isaac, Jacob, et puis le Mashiach. Non. Il se creuse un temps énorme entre Jacob, qui devient Israël, et tout fils d'Israël aurait pu être fils d'Israël. C'est ça, le Mashiach. Okay? Et il faut attendre quoi? Il faut attendre les autres. Et vous voyez pourquoi cette énorme patience de l'identité hébraïque, il y a longtemps qu'elle aurait pu mériter son monde. Et puis voilà que depuis le temps de Jacob jusqu'au temps du Mashiach, il faut attendre le quatrième. C'est le quatrième qui attend les autres. Vous avez compris? Vous savez que nous disons habituellement, nous attendons le Messie. C'est un mensonge pieux. C'est lui qui nous attend. Et on sait très bien où il nous attend et on le laisse attendre. Alors, revenons au problème. La différence entre derer, qui signifie guerre, et derer, qui signifie Torah. Bon. Alors, je vais passer très brièvement par une Mishnah de la Gemara de Kiddushin, c'est d'ailleurs la première, qui nous dit ceci. Je ne sais pas. Il me semble qu'une année, on a dû étudier ça. Ça vous dit rien, là? Ici, dans un séminaire ici? Bon. Alors, ça ira plus vite. La première Mishnah de Kiddushin dit ceci. Il y a trois procédures du mariage. Je vous mets la Mishnah au tableau pour que vous puissiez suivre. Il y a trois procédures du mariage. Littéralement, Aïcha Nifnet, Peshalosh Vahri. C'est cette expression qui va nous... qu'est-ce que j'ai dit, Shalosh? Non, je me suis trompé. Shloshar. Il y a une particularité de la langue hébraïque que vous connaissez, c'est que les chiffres jusqu'au 10, le genre de l'adjectif change. C'est-à-dire, on met le féminin quand c'est un masculin et le masculin quand c'est un féminin. Vous savez ça? Alors, Alors, je n'étais pas trompé, hein, une minute. Mais Shalosh. Et shalosh. Par conséquent, le fait qu'il y ait shalosh, ça signifie que drachim, pour dire procédure, mais le mot de derer au pluriel, est un féminin. Très bien, on va le mettre là. Alors, la Mishnah dit ceci. Aïcha niknet, la femme est acquise en mariage, est mariée, mais shalosh drachim, par trois procédures. Bon, c'est pas l'objet du coup de maintenant d'étudier quelles sont ces procédures. La Gemara tout de suite pose une question apparemment purement formelle de grammaire, mais qui va nous mener à un problème de fond. La Gemara demande pourquoi la Mishnah dit shalosh au féminin et pas shlosha au masculin. Et elle répond. Parce que parce qu'il s'agit de la procédure du mariage de la femme, et que comme la femme est au féminin, il faut que le derer de procédure soit aussi au féminin. Et elle nous dit, effectivement, et là je vais vous donner les versets, c'est pourquoi j'ai demandé à la Gemara, si la Mishnah avait dit Shlosha Drachim au masculin, alors le mot de derer aurait signifié la guerre. Je vous donne d'abord les versets que dit la Gemara. J'essaye de schématiser, alors ça m'en handicap un peu, mais enfin, si c'est pas suffisamment clair, vous m'interrogez. Et voilà le verset par lequel on sait que le mot de derer est au féminin signifie la Torah. Le verset par lequel on sait que le mot de derer est féminin, c'est le verset Veodarta laem et ta derer yelechuba. Et tu leur feras connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Et il s'agit de l'enseignement de la Torah. Ça se trouve dans Shemot, chapitre 18. Et tu leur feras connaître le chemin qu'ils devront suivre. Alors, que lorsque derer est au masculin, c'est dans le Deutéronome, chapitre 28, c'est une situation de guerre. Lorsque Dieu promet à Israël, Bederech Echad, Yatsu Elecha, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, et c'est au masculin, ou Beshiva de Rachim, Yanusu Mipanecha. Et par sept chemins, ils s'enfuiront. Et là, il s'agit de la situation de guerre, et le mot de Derer est au masculin. Ensuite, la Gemara continue. Ah, j'ai pas numéro du verset. 28. Mais on peut le trouver tout de suite. Alors la Gemara dit ceci. Il y a donc opposition, contradiction dans les emplois du mot de derer. Puisque le mot de derer peut être soit au masculin et ça veut dire la guerre, soit au féminin et ça veut dire la Torah, quelle est la règle qui nous explique pourquoi ici on a mis le mot de drachim, procédure, au féminin et pas au masculin? Puisque nous trouvons, comme tu viens de dire, des versets où c'est l'un ou l'autre, mais là tu as expliqué, dans un cas où c'est masculin, c'est la guerre, dans un cas où c'est féminin, c'est la Torah, mais nous trouvons des Mishnayot où c'est soit masculin, soit féminin. Alors, la Gemara continue en disant, il n'y a pas de contradiction. Dans notre cas, où il s'agit de Torah, et la Torah est au féminin, alors on a mis derer au féminin. Ah oui, idée supplémentaire. Il faut aussi apprendre que la Torah est au féminin. Vous vous suivez? Et on a besoin d'un verset pour ça, nous dit la Gemara. Quel verset? C'est un verset du psaume 19 qui dit Torah tachem temima meshivat nafesh. Mais c'est pas n'importe quel verset que la Gemara a choisi pour nous dire que la Torah est au féminin. Parce que la Torah est au féminin, n'importe quel verset, le dictionnaire. Okay? Non, il y a un verset particulier. Torah Tachem Tmima Meshivat Nafesh. La Torah de Dieu est pure, elle ramène l'âme. Meshivat Nafesh. En réalité, c'est lié au problème du mariage, parce que de la même manière que la Torah ramène le Nefesh de l'homme, de la même manière la femme ramène le Nefesh de l'homme. C'est pas le problème d'aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer pourquoi c'est ce verset en particulier que la Torah que la Gemara a retenu. Première partie de l'analyse donc. Nous apprenons que la Gemara a un souci, elle veut comprendre pourquoi la procédure du mariage est une procédure au féminin, derer au féminin. À partir de là, elle explique, il y a deux emplois du mot derer, si c'est au masculin, c'est la guerre, si c'est au féminin, c'est la Torah. Et comme dans ce cas, il s'agit de Torah, parce que la relation de la femme à l'homme est comme la relation de la Torah à Israël, Meshivat Nafesh, alors on a dû mettre au féminin. Ça y est, c'est clair? Dans une minute, je continue. Et là, la Gemara repose sa question. Puisqu'il fallait mettre au féminin parce que c'était le mot de derer, alors ne mets pas le mot de derer, mets le mot de davar. tu peux avoir le même sens. Et dit chez le chat, et dit au masculin. Par trois procédures, la femme est mariée. Et la Gemara, à ce moment-là, explique la différence entre elles.